Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est l'after jusqu'à minuit, l'after qui continue bien sûr, vous le savez, pendant toute cette période sans match, en direct tous les soirs de la semaine, l'after uniquement sur RMC à la radio pendant cette période. L'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Rotten est parmi nous. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
On l'entend pas beaucoup, monsieur Rotten.
T'inquiète, on va régler son micro. Je rappelle que l'after est toujours en radio-travail, chacun chez soi, bien sûr. Daniel dans sa salle à manger, Jérôme sur son canapé et Pierre Ducrot, évidemment, toujours là.
À côté du frigo.
À côté du frigo. Salut Pierre.
En face. Bonsoir, monsieur.
En face. À côté du micro. Face, alors.
Est-ce qu'en parlant à l'antenne, tu peux l'ouvrir? Genre te prendre un truc à bouffer,
non.
Si t'as faim.
Non, c'est trop loin. Trop loin. Donc, non. Je peux ouvrir le micro-ondes, mais il n'y a rien dedans. Je peux accéder. Je vais me faire un petit café, tiens. Hop.
Ça, tu peux, la machine à café, elle est à côté.
Hop, voilà.
Ah, bah, si c'est bien fait, attends. Hey, qu'est-ce que tu crois?
Si vous entendez du bruit, c'est mon petit café.
Attends, un café, voilà. Non, mais. Voilà.
On l'entend bien, t'inquiète, on l'a bien entendu, là.
Voilà.
C'est n'importe quoi.
Ah, bah, maintenant, vous attendez, hein. j'en ai fait un cours, ça va pas être long.
Ce bruit m'indique plutôt une machine de qualité.
Il y a mieux, il y a pire, mais il y a mieux.
C'est une vieille machine, ça.
Pourtant, j'aimais bien
ça. Non, elle est pas vieille du tout. C'est,
bon, non, voilà, c'est petite, ça.
On va citer, c'est la machine de Georges Clooney. Mais,
c'est Nespresso, non. C'est Nespresso, c'est café de moyenne qualité.
Ouais, c'est café moyenne qualité.
Et le soir, t'es
pour tout te dire, le café en grain me manque et ce sera un prochain achat, je pense.
Voilà, bon, très bien. Donc, j'allais vous demander ce que vous avez fait aujourd'hui. Bah, donc, Pierre a fait des cafés. Voilà, Jérôme,
pas
ça
que,
va, toi?
Pas que, mais bon.
ouais, ça va. Le week-end, un peu. C'est toujours long, le week-end, en fait. Ça change pas des choses.
De toute façon, c'était lundi aujourd'hui, manger. Hein.
Pareil.
C'était lundi aujourd'hui.
Oui, oui, non, mais.
Le week-end, c'était fini hier soir.
Oui, mais sauf que moi, je suis en week-end, Pierre. J'ai rien fait samedi et dimanche.
Et le lundi, généralement, Pierre, c'est retour de week-end quand on parle du week-end. Même si voilà, on est lundi.
Si, moi je vais vous parler d'un truc quand même. J'ai regardé la série sur Arte avec Cantona.
Je sais pas pourquoi ça m'intéresse pas du tout.
Eh ben, tu devrais la regarder, elle est géniale. Et franchement,
j'en ai tellement à regarder là.
Et franchement, Cantona est devenu définitivement un excellent acteur.
Non, ça m'intéresse pas.
Ouais. Eh ben, tu devrais.
Non,
ça s'appelle
braqué,
dérapage.
J'ai d'autres trucs à faire, j'en ai d'autres à voir.
Écoute, tu dois la faire passer en top priorité là. Dérapage sur Arte.
J'en ai d'autres.
Hein. Sur VOD, hein, pour y aller.
On va aller voir ça. Okay.
Les gars, l'actu du jour, dans quelques instants, mais vous le savez, l'événement ce soir dans l'after, c'est le début d'une semaine spéciale tactique, tout à l'heure à 23h. Ce soir, on va parler des grandes tendances tactiques de la saison. Alors, le fameux jeu de transition, est-ce qu'effectivement, c'est la grande mode, ou bien est-ce que finalement, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui le pratiquent? On va rentrer dans les détails tout à l'heure. On parlera également des sprints, avec quelques éléments intéressants, vous allez voir, sur l'évolution globale du jeu et de la façon de le voir de la part des coachs. On abordera un autre soir les coups de pied arrêtés, et puis un autre soir les coachs, les dernières tendances chez les coachs. Bref, on va se faire ça par dossier, bien sûr, jusqu'à jeudi soir, tous les soirs à 23h. Donc, semaine spéciale tactique dans l'after, et on vous attend au 32-16 pour participer avec nous, évidemment. L'actu du jour dans quelques instants, je l'ai dit, et puis les drôles de dames comme promis pour faire un point complet sur les reprises des championnats en Europe. Tous les jours, il y a des actus qui tombent là-dessus, un peu contradictoires, qui évoluent ou pas. Bref, on va faire le point ce soir, bien sûr, parce que tout ça approche maintenant de plus en plus. Le 32-16 est ouvert, vous le savez, le hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio sur nos applis RMC et RMC Sport, où tous les podcasts, bien sûr, sont disponibles directement. Dans l'actu du jour, j'ai un coup de mercato à vous. Alors, suite à notre heure d'hier sur les chapeaux des six, qui a fait le débat continue d'ailleurs, hein, sur le hashtag RMC Live. Je suis assez étonné finalement que ça excite autant nos afteriens, mais voilà, tout le monde refait les chapeaux, tout le monde nous dit que Kamavinga chapeau 1, c'est quand même abusé. Puis les
moi je me suis fait insulter parce que je ne l'ai pas mis chapeau 1, parce que c'est le mec qui doit y être. En même temps, les réactions par rapport au chapeau,
qui avait mis chapeau 1 du coup, alors,
franchement,
moi je l'avais mis chapeau 3.
Chapeau 1, vous avez fait n'importe quoi. Camavinga, chapeau.
Bah moi, je ne l'ai pas mis là. Hein.
Pas sérieux. Non.
Mais moi, je l'ai mis chapeau 3.
Bah, il s'est bien retrouvé là, pas par hasard. Donc, c'est.
Ah bah non,
c'est
on l'a pas tous mis, Jérôme. Jérôme, on
l'a pas tous mis. Et puis, Lionel Charbonnier aussi, il a mis 1.
On l'a pas tous mis. Le truc, c'est qu'on est 6 ces soirs-là. Donc, quand les mecs disent, ouais, vous avez fait ça, vous avez fait ça, on était 7. Chacun a des avis différents, Jérôme.
Tout le monde n'a pas le même critère de sélection. Et je pense que tous ceux qui l'ont mis, c'est parce qu'ils partent du principe qu'il faut l'avoir chez soi aujourd'hui parce qu'il coûte, il est encore abordable et que ça va être un futur grand.
Ah ouais, c'est pas un scandale. Oui, mais
c'est pas le critère des chapeaux, Pierre.
À la base, les chapeaux, quand moi, je participais même pas encore à l'after, c'était plus, tu veux te faire ton équipe aujourd'hui pour gagner la Ligue des Champions.
Je vais vous libérer.
Tu fais ton chapeau numéro 1.
Je vais vous libérer. L'after ne vous met pas, messieurs, dans un carcan. L'after vous laisse une liberté d'action. Là, c'est ça l'after. C'est la possibilité d'exprimer.
Bah alors, fais plus les chapeaux alors.
Oui, mais sauf que pour faire les chapeaux, c'est les mêmes critères.
Camavinga qui a 17 balais ou 18 balais et qui est aujourd'hui dans le chapeau 1 alors qu'il joue à Rennes, excuse-moi, il a beau avoir tout le talent.
C'est quoi ton problème avec
Rennes? Je pense, hein. Mais non, mais bon, il joue à Rennes. Rennes, ça veut dire que c'est pas déjà le top d'équipe en France, je te parle.
Oui, donc, il est jeune, il a pas encore des références sur l'étranger.
Dans les 6 du chapeau 1.
Toute l'Europe,
dans les 6 meilleurs. Dans les 6 meilleurs du chapeau 1.
Gilbert, c'est un argument. Franchement, ça fait 10 ans, plus de 10 ans d'émission où on dit, que les transferts ne signifient pas grand-chose au final, parce qu'on a vu plein de joueurs achetés tant qu'ils n'ont pas prouvé, on ne sait pas. Alors c'est vrai que on joue notre petit jeu des chapeaux, c'est une sorte de foot manager. Moi, je veux bien, mais en même temps, tu ne peux pas. On n'arrête pas de dire qu'il faut pas griller les jeunes, qu'il faut pas aller trop vite, qu'il faut pas. Et bim, vous faites le jeu et bim, il est bazardé chapeau 1.
Écoute, ça
deux secondes quand même.
Et toute l'Europe le veut. Ça s'appelle la démocratie.
Et toute l'Europe le veut. Du grand n'importe quoi.
C'est un concept. Vous adhérez pas forcément, mais enfin bon, là c'était
non,
ça.
Mais toute l'Europe le veut ne peut pas être un argument. Toute l'Europe le veut ne peut pas être un argument quand on sait le nombre de joueurs qui ont été grillés malgré des beaux transferts. Ça veut rien dire du tout, ça. Ça veut rien dire du tout. Maintenant, ce que je dis n'est peut-être pas cohérent par rapport au jeu que représente le jeu des chapeaux, qui est de faire des paris sur certains joueurs. Alors, c'est ça qu'il faudrait qu'on clarifie, c'est est-ce qu'on joue à Football Manager en prenant des risques sur les mecs ou est-ce qu'on juge le niveau? Je pense que c'est plus le niveau à l'instant T, le jeu. Le jeu, c'est plus ça, en fait.
Il faudrait redéfinir les règles du chapeau, en fait.
C'est ça, t'as raison. C'est vrai.
Parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes, donc finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes choix.
Bah non, mais le critère, Pierre, tu l'as dit. D'emblée, et tout le monde part dans cette optique là, c'est aujourd'hui t'as une équipe en main, tu construis la meilleure équipe possible avec tant d'attaquants, tant de milieux de terrain,
si t'avais écouté, il y en a quelques-uns qui ont dit moi je suis directeur sportif de mon club, je pense à la plus-value que je peux faire dans 3 ans. Tu vas pas forcément à gagner aujourd'hui.
Les mecs, ils se prennent pour. On leur demande juste de mettre des chapeaux. On leur demande pas de partir dans des délires. Ouais, attention, si je prends lui, combien je vais le revendre après, dans 2 ans, dans 3 ans? Mais on s'en fout de ça. On s'en fout.
Ah bah Simonet, il a l'impression de mettre sa thune à lui, hein, je te le dis.
Oui, mais non, c'est pas ça. Le jeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on pense que le mec vaut au moment où on parle. Ah, quoi. Ouais. Mais après, c'est pas non plus toujours cohérent, parce que dans ces cas-là, pourquoi on écarte le mec quand il est un peu vieux?
Après, les gars, c'est juste les goûts, les couleurs aussi. Je veux dire, au bout d'un moment,
Arrête
avec tes goûts et tes couleurs.
C'est pas grave.
Mais si, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, à l'arrivée, j'ai pas fait les chapeaux hier, mais avec tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, alors je veux bien que on a que ça à faire aujourd'hui. Je regarde, je passe ma vie sur le téléphone, sur les trucs. Tu regardes ce qui passe.
Que ça à faire.
Du moins entre autres.
Et tu
te dis, mais attends, mais oh, l'émission des chapeaux, alors ça rend fou les gens. Ok, pas de problème. Mais putain, mais quand tu prends autant de critiques parce que t'as fait ces choix-là où les gens vont même aller critiquer ce qu'on fait, l'after, le truc, parce que
c'est les idiots.
Restons solidaires, Jérôme.
Ça se passe pas si bien que ça, ton confinement, Jérôme, en fait.
Non, c'est toi. De toute façon, c'est toi qui prends les décisions.
Toi, Gilbert, quand tu réponds à Jérôme, cet argument qui est absolument. Mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs. Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer. J'en sais rien, mais tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane. Parce que le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Voilà.
Ah oui.
Pourtant, arrête avec le goût et les couleurs, c'est un argument de merde, le goût et les couleurs.
Mais pour toi non plus, ça se passe pas très bien le confinement, en fait.
Mais non, mais arrête avec tes arguments. Il a raison, Jérôme, de s'énerver sur toi. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs. C'est nul, les goûts et les couleurs. Il y a une éducation au goût, je te signale. Il y a une éducation au beau. Il y a même des études universitaires sur le beau et le goût. Sinon, ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier. Par exemple, les étudiants en cinéma, ils passent des années à étudier les films, les plans, machin. Et il y a un mec qui va arriver et qui va dire, oh, moi, je préfère Taxi au Parrain. Mais va te faire foutre, t'es nul, tu connais rien, ferme ta gueule. Voilà.
Alors, ce que tu décris là.
Il n'y a pas de goût et les couleurs, JBR. Il n'y a pas de goût et les couleurs.
Ce que tu décris là a un nom, ça s'appelle l'intolérance.
Mais non! Arrête, franchement, je m'en vais. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça, Gilbert. T'as pas le droit de dire ça. Toi, c'est une insulte pour les gens qui font des études, ce que tu dis là.
Qu'est-ce que tu racontes? Ben, c'est compliqué.
Mais oui, parce que ça veut dire qu'un mec qui étudie, un mec qui se casse le cul à apprendre des choses, à potasser des bouquins, à savoir ce qui est bien, une œuvre d'art, machin, toi, tu lui dis, oh non, le goût et les couleurs. Eh ben, ton fils, il fait une merde sur une toile, c'est mieux que Picasso aussi, le goût et les couleurs.
Mais ça n'a absolument rien à voir. Mais t'es
ceci dit, tu viens de me répondre que le mec qui dit que Taxi c'est mieux qu'un film.
Écoute, si tu veux aller partir en croisade pour éduquer la terre entière sur tous les sujets, vas-y, c'est perdu d'avance. Hein.
Non, je ne te dis pas. Alors déjà, rien n'est jamais perdu d'avance. Et deux, je ne te dis pas que je veux éduquer la terre entière. Je veux qu'on respecte les gens qui ont de l'expérience, qui étudient, dont le temps et la passion est de se mettre dans les livres pour étudier. Même pour le foot, le mec qui vient et qui dit « Ouais, moi je pense ça... » Attends, je pense comme ça.
Débat,
tu veux pas qu'on en discute deux secondes? Parce que quand ça fait 20 ans que t'as tout regardé, que t'as tout machin, le mec il vient pas pour
pas
dire « Moi je sais,
plus
quoi. »
Fort que tu as raison, tu connais cette règle. Le départ de la discussion, c'était « Camavinga, chapeau 1 ». Moi, j'ai dit le goût et les couleurs. Camavinga, chapeau 1, on va se détendre. C'est pas le scandale du siècle. Détente.
Si c'est un scandale, mais bon, c'est que des chapeaux, c'est pas grave.
Il y a moins de différence entre Taxi et contre Taxi et le Parrain.
Vivement le déconfinement.
Pardon, Pierre. Ça va pas ou quoi? Non mais Pierre, arrêtez sur les sujets sensibles. Arrêtez putain.
Daniel, t'as besoin de repos. Le 11, je t'invite à un barbecue.
Jérôme, tu aurais imaginé Daniel dans un vestiaire de foot? Daniel, t'aurais dégoupillé.
Daniel, dans un vestiaire de foot. Mais écoute-moi bien, il explosait comme un pop-corn.
Tous les jours.
Le jour où il y a un mec qui arrive avec sa baffe avec du rap, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé?
Bah, ça dépend si c'est du bon rap. Si c'est du bon rap, si c'est du rap de merde, non, mais si c'est du bon rap.
Avec un ensemble survêt orange, jaune. Et qui t'aurait dit, mais non, c'est plus joli que ta paire de souliers italiennes.
En fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais essayé de lui expliquer, tu vois. Parce que je serais allé vers les gens et j'aurais.
T'aurais essayé, t'as bien fait de dire essayer. T'aurais pas réussi.
Voilà, j'aurais essayé.
Je pense que ton Claude Barzotti dans le vestiaire, il aurait explosé. Pareil.
Le problème, c'est que je n'ai jamais écouté Claude Barzotti.
Enfin.
Et que vos petits clichés culturels et raccourcis de merde.
T'es pas
allé
au concert.
Tu vois, je le garde.
Je suis Rital et je le reste.
Mais tu vois, quand tu fais ça, Gilbert.
C'est pas moi, c'est Paul Vecchio.
Et ben, tu vois, quand vous faites ça, c'est exactement ce que tu n'oserais pas faire si c'est un rebeu qui appelle et que tu lui mets Cheb Mami, tu vois, ou Khaled.
Tu vois, t'oserais pas
le faire parce que demain tu prends une flambée sur Twitter. Ouais, le mec, le cliché culturel, il le ramène au seul truc qu'il connaît du pays. Tu vois?
Sauf que moi je m'en branle,
mais je vous mets juste face à votre contradiction parce que vous n'oseriez pas le faire.
Mais n'importe quoi.
Mais si, bien sûr.
Vous le feriez pas.
Dans les vestiaires, on a tout écouté dans les vestiaires, justement.
Ça, c'est vrai.
Je te parle pas du vestiaire, je te parle de l'antenne.
Rachita, c'est mieux que Ralette déjà.
Rachita, ouais.
Déjà d'une. Allez, bon, revenons.
Deux, alors donc, mets des trucs italiens de qualité, mais pas des trucs italiens de merde, qui sont même pas italiens d'ailleurs.
On t'a prévu Zucchero, t'inquiète. Je sais que tu préfères. Alors, dans l'actu du jour, pour Excusez-moi, mais dans l'actu du jour, j'ai quand même. Parce que, en fait, au départ, je reparlais des chapeaux pour vous dire qu'en fait, il y a une actu liée au chapeau d'hier. C'est, au départ, c'était ça, la discussion. Alors là, c'est parti un peu en cacahuète, mais oui, parce que Thomas Partey, qui est dans les chapeaux.
Chapeau 1
aussi d'ailleurs.
On a mis dans les chapeaux hier. D'ailleurs, il est dans le chapeau 1, hein, voilà, suite à hier, tout comme Fabinho, Casemiro, Kimmich, Pjanic et Kamavinga. Et bien, figurez-vous que le PSG.
Kamavinga, n'importe quoi.
Le PSG.
Non, mais, je l'entends.
Le PSG s'intéresse de très près à Thomas Partey. Alors, c'est vrai que Leonardo a dit il y a quelques jours qu'il voulait un milieu de terrain, voilà, un peu physique, grand, voilà. Donc, Thomas Partey, là, il y a une clause libératoire, hein, environ 50 millions d'euros. C'est pas fait parce que l'Atlético cherche à le prolonger, mais enfin, voilà, donc l'idée du jour du PSG, apparemment, qui est quand même sérieuse.
Ouais, Thomas Partey, mais il parlait de Fabian Ruiz aussi, le joueur de Naples. J'ai lu ça aussi, qu'il était, bon, même s'il est convoité, pareil.
Hein, il y a plein de joueurs au milieu qui sont évoqués. Il y a Tonali aussi, le jeune de Brescia, qui est très très bon, qui est un super joueur.
Mais après, c'est vrai que c'est pas les mêmes. Si tu prends les deux, parce que j'ai vu qu'ils étaient aussi intéressés sur Ruiz, là, le joueur de Naples. Quand tu vois Thomas Partey et Ruiz, c'est deux joueurs totalement différents. Donc après, faut savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent vraiment densifier le milieu de terrain avec un joueur athlétique assez grand, comme ont la plupart des grandes équipes aujourd'hui en Europe. Et souvent, il joue avec ce joueur-là. Thomas Partey est une référence aujourd'hui à ce poste-là. Mmh. Après, si tu veux plus un manieur de ballon, un joueur qui est capable d'aller faire la bonne passe, le bon décalage, Fabian Ruiz, c'est quand même autre chose au niveau de la qualité technique. Mais est-ce que c'est ça qu'ils recherchent ? Je sais pas. Mais il faudrait quand même qu'ils arrivent à rester sur un profil, parce que la taille, je veux bien qu'on cherche de la taille, mais après il y a la taille et ce que tu recherches, il y a le joueur physique ou le joueur technique.
Hein. Bah là, il parlait avant tout de physique et de taille, hein, quand même, hein, Leonardo. Hein.
C'est pas tant la taille, parce qu'il est pas, il est pas si grand que ça. C'est qu'il a effectivement de l'impact et voilà. Sur le plan athlétique, il est impressionnant. Mais Jérôme, c'est pas non plus le plus maladroit avec les pieds. Hein. C'est pas un mauvais joueur de ballon.
Je te rejoins.
Ruiz est au-dessus techniquement, mais c'est pas un mauvais joueur de ballon.
Je suis pas en train de te dire que c'est un. Non, mais Pierre, t'as raison. Je suis pas en train de te dire que c'est un tocard. Non, mais la qualité, sa qualité première, tu mets pas sa qualité technique en avant. C'est ce que je veux dire.
Non, c'est l'intensité, son impact, etc.
Exactement. Voilà.
Bon, à suivre. Donc voilà l'info mercato du jour. Concernant la reprise en Ligue 1 maintenant, demain, vous savez que Édouard Philippe va s'exprimer concernant les mesures de déconfinement. Le foot français, enfin les présidents font savoir aujourd'hui qu'ils attendent que Édouard Philippe parle du foot professionnel demain. Alors c'est que le Premier ministre italien l'a fait hier, hein, on l'a raconté. Voilà, donc les présidents disent, bah ouais, nous on a besoin de précision parce que nos différents interlocuteurs au ministère des Sports sont pas très clairs. Voilà, donc on veut des éclaircissements. Ce matin, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, qu'on voit beaucoup sur les chaînes info ces derniers jours, a expliqué.
C'est même qu'on voit que lui.
Ouais, en même temps, c'est important puisque c'est lui qui souffle les mesures au gouvernement. Enfin, lui et son conseil scientifique. Donc, il a dit ce matin sur RMC que les rassemblements avec du public n'étaient vraiment pas d'actualité et que la reprise du foot n'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Alors après, lui, il donne des tendances, il donne des avis médicaux qui sont pas forcément suivis. Il avait dit, lui, qu'il fallait pas reprendre l'école avant septembre. Le gouvernement, pour l'instant, ne le suit pas. Donc on verra ce qui se passe sur le foot. En tous les cas, le comité médical de la Ligue explique aujourd'hui que, vous savez, pour les histoires de tests, parce qu'on se posait la question ces derniers jours, qu'est-ce qu'on fait si, une fois que ça a repris, il y a un joueur malade ? Donc, le comité médical de la Ligue dit, si un joueur est malade, il reste chez lui et tout l'effectif est testé. Si derrière ça, au moins 3 joueurs sont testés positifs, alors là, tout l'effectif reste à la maison et les entraînements s'arrêtent. Voilà, donc c'est déjà un peu plus précis sur le process.
Oui, ça, je pense bien.
Et puis après, il se pose un autre problème maintenant, qu'on a commencé à évoquer hier, c'est le souci des tests. Ça pose un souci éthique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gouvernement n'a pas autorisé à ce jour les ventes de tests aux entreprises. Donc il faudrait accorder une sorte de dérogation au foot français pour que les clubs puissent se procurer les tests. Et la Ligue a fait les calculs. Pour pouvoir faire des tests réguliers 2 fois par semaine de tout le monde, il faudrait au foot français 40 000 tests. Voilà. Donc là, il y a encore une inconnue.
Pour finir le championnat, 40 000 tests.
Voilà. Est-ce que les clubs vont pouvoir déjà se procurer ces tests? Voilà.
Non, et puis il faut savoir, Gilbert, s'ils sont fiables, ces tests, parce qu'apparemment, ils ne sont pas fiables.
Et en plus, effectivement,
c'est surtout ça le problème. Voilà. Donc, moi, je veux bien parler tests deux fois par semaine, nanana, mais la fiabilité, y a quand même quelques failles là-dedans. Hein, donc,
on va en reparler avec le rôle de l'homme, parce que vous savez que Lionel Charbonnier, hier, a émis son idée de confinement, enfin de mise au vert, on va dire, pour
Mais ça m'a rendu fou, ça aussi.
Bah, attends. Les Anglais, ils vont le faire.
Ouais,
on va en parler avec Julien Laurence tout à l'heure.
Putain, mais qui c'est qui prend ces décisions de merde, en fait? Parce que, non mais sans déconner, tu vas enfermer un groupe de joueurs avec leur staff et deux, trois kinés et les médecins pendant un mois et demi pour finir le championnat. Mais oh les gars.
Pendant un mois jusqu'à la reprise du championnat.
Non mais même un mois, Gilbert, c'est intenable. Avec Pierre,
après,
on a été dans
aussi,
un...
Après aussi, Gilbert.
Les Anglais, ils parlent de un mois avant la reprise du championnat. On aura
c'est n'importe quoi.
T'arrêtes.
Si tu veux, c'est pour être sûr de redémarrer avec des joueurs qui sont tous sains, en fait.
Mais Gilbert, tu fais. Avec Pierre, on a connu que tu fais trois jours de mise au vert, déjà, c'est compliqué.
Rectification, Pierre. Il parle de sa reprise et pendant le championnat aussi.
Ça me semble plus logique, ouais.
Voilà, avec des
hôtels. C'est là où tu vas te déplacer, tu vas côtoyer un peu de monde, etc.
Avec des hôtels privatisés. Enfin, Julien va nous expliquer tout ça tout à l'heure.
Donc, lâche
pas tout de suite, Jérôme, garde-en pour tout à l'heure.
Mettez-les dans un bunker.
Alors, par ailleurs, sachez que Jacques-Henri Hérault, l'OM fait beaucoup de choses, hein, et on a déjà parlé des initiatives avec les Restos du Cœur, le prêt de la commanderie pour aider notamment les personnes en difficulté, femmes battues et compagnie. Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta ont expliqué aujourd'hui dans une vidéoconférence interne au club qu'ils allaient eux-mêmes, personnellement, prendre en charge les pertes de salaire des employés les moins payés. Alors, Hérault et Zubizarreta disent, voilà, c'est simple, c'est nous-mêmes, on va... déjà, ils ont baissé leur salaire, hein, 20% chacun. Et ils ont expliqué, voilà, pour tous les employés de l'OM qui touchent moins de 2300 euros bruts, donc qui sont en chômage partiel, on va, nous, personnellement, combler la différence. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta. Alors, par ailleurs, toujours pas d'accord collectif hein, avec les joueurs à Marseille.
Et lui... Oui. Bah si, ils ont les accords collectifs.
Non,
en
pas
fait,
encore.
Mais...
Non, il y a ce que l'UNFP a préconisé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord définitif.
Mais Gilbert, il n'y aura jamais d'accord. Mais tu sais pourquoi il n'y aura jamais d'accord?
Pourquoi?
Je vais te le dire. Parce que le président Hérault, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les joueurs. Hein, et il faut arrêter de lire quand ils ont appelé les agents, soi-disant. Non, il a appelé les joueurs. Et il leur a dit, voilà, faites, il y a eu l'accord avec l'UNFP, ok, mais faites un effort supplémentaire. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais il n'y aura jamais d'accord. Comment tu veux que le joueur, d'un seul coup, il se dise tout seul, il se dit bah attends, moi je vais laisser donc 50% de mon salaire, puis ça se trouve les autres à côté, ils vont rien laisser du tout, ça va être l'accord de l'UNFP. C'est soit tu demandes catégoriquement, tu dis voilà, l'UNFP c'est 20% ou 30% en moins, et ben moi je vous demande un effort de 50%. C'est oui ou c'est non, et puis voilà, mais tu peux pas laisser les joueurs
dire,
dans
l'indice. C'est mal négocié par les dirigeants,
oui.
Quoi, en fait.
Et oui, parce que ça me fait rire. Ce que tu dis là même, tu dis Hérault et Zubizarreta, ils ont baissé leur salaire de 20%. Ben alors pourquoi tu demandes plus aux joueurs? Ben toi déjà fais un effort dans ces cas-là, perds 50% de ton salaire, et peut-être que les joueurs d'un moment ils vont te suivre. Eh, attends, tu peux pas tout demander aux joueurs, quoi. Et l'accord, je te dis qu'il arrivera jamais.
Pendant ce temps-là, bah, c'est pas qu'à Marseille d'ailleurs, hein. Paris et Lyon, c'est toujours pas fait non plus, par exemple, pour reprendre les plus grands clubs français.
Bon, beaucoup, ouais. Julien. Là, tous les clubs sont en train de négocier avec leurs joueurs.
Pendant ce temps-là, Fabregas, lui, a pris les devants à Monaco. Alors lui, Fabregas, il a dit voilà, moi, je baisse de 30%. Il a dit pour lui, hein. Il a dit ça au club, il dit moi je suis prêt à baisser de 30% par ailleurs je suis prêt à aider les membres du staff, c'est-à-dire s'il y a des membres du staff qui effectivement ont des petits salaires, bah, moi je suis prêt à les aider personnellement, je paierai le manque à gagner de tous les membres du staff, médical, physique, des intendants, tout ça qui sont mis au chômage technique, voilà ce qu'a dit Fabregas aujourd'hui. Voilà.
Donc, c'est bien.
Il faut souligner les initiatives des footeux. Voilà pour. Alors, j'ai encore un peu d'actu, mais je vous l'attendrai tout à l'heure, parce que là, du coup, notre magnifique débat de début d'after nous a fait perdre un peu de temps. Les drôles de dames nous attendent. Oui, ces fameuses drôles de dames qui ont mis Kamavinga en chapeau 1, elles arrivent tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là tout à l'heure. La tactique à 23h, on va parler des styles de jeu à la mode, en vogue, des schémas qui ont le plus été efficaces cette année dans les grandes compétitions. Ce sera à partir de 23h, bien sûr. Jérôme Rotten est là, Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là. Et les droits de l'homme sont là, jingle tout de suite, c'est parti. Et oui, Polo Breitner est parmi nous. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde, spécial dédicace à Jérôme qui a dit que les chapeaux c'était n'importe quoi, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Merci merci Polo.
Ça manque d'allemand.
Surtout quand manque d'allemand dans l'organisation. En fonction d'une nationalité, ça c'est vrai que là.
Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a certains qui.
Chapeau rédhibitoire.
Simone Rovera est parmi nous, salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir à tout le monde, sauf Jérôme Rotten bien sûr.
Pourquoi?
Bah parce qu'il a pas compris. Il a pas compris. C'est dommage.
Bah non, vous avez fait de la merde. J'ai le droit de vous le dire quand même.
Mais t'étais un si bon joueur. T'étais un si bon consultant. Et là, t'as rien compris des chapeaux. C'est incroyable.
Fred Hermel est là également. Salut Fredo.
Hola chicos. Alors comme l'after est une émission culturelle, je vais dire à Jérôme quién va Sevilla, pierde su silla. Traduction: qui va Séville perd sa chaise. En français: qui va la chasse perd sa place. T'avais qu'à être là hier soir.
Oh!
Bah non, au contraire, je préfère pas être mêlé à ça. Tant mieux. Tranquille chez moi, je suis pas responsable.
Et Julien Laurent, salut Julien.
Responsable et pas coupable, nous.
Salut Gilbert, salut à tous. Salut à Eduardo Camavinga, chapeau 1. Eduardo Camavinga.
Allez, allez. En fait, c'est les Betek. Écoute, nous les Betek qui avons imposé Camavinga.
Alors,
Jérôme, gars, sincèrement, Jérôme, juste rapidement, non, Gilbert, aujourd'hui j'ai eu le téléphone. Ah, très vite, très vite. Vas-y. J'ai eu un directeur sportif d'un grand club anglais, un scout d'un grand club anglais. Ils m'ont dit, Camavinga, c'est exceptionnel. C'est tous les grands clubs. Camavinga et franchement, moi, je suis directeur sportif dans les chapeaux, mais je le prends.
Oui, mais
j'ai pas dit qu'il avait pas beaucoup de talent.
On expliquait qu'il fallait définir le jeu. Est-ce que c'était un pari sur l'avenir? Bah oui. Ou est-ce que c'était qu'est-ce qu'on dit?
Le jeu a été défini. T'es directeur sportif, tu recrutes. Bah eux, ils ont choisi de recruter Camavinga et pas d'autres. Voilà.
Ben moi, je les inviterais à consulter les chapeaux. Ça fait 3 ans qu'on les fait. D'une année sur l'autre, il y a de telles variations que les paris sur les joueurs, c'est quelque chose qui est très, très, très risqué.
Ah, ça peut-être.
Quand on voit certains joueurs où ils se retrouvent d'une année sur l'autre, c'est un peu compliqué de faire ce genre de pari-là.
Sinon, le profil recherché par Leonardo ressemble beaucoup à celui de Zakaria, au passage.
Oui, mais là, t'as vu qu'ils sont plus sur Partey, d'accord.
Thomas Partey, je vous rappelle que quand hier j'ai mis Thomas Partey numéro 1, il y a plein de gens qui ne voulaient pas le mettre. D'un coup, là, c'est le PSG, ça y est, chapeau 1.
Ah non, Partey, on l'a tous mis quasiment.
Il est dans le chapeau, hein, Partey.
Partey est remonté à la fin, mon cher Gilbert.
Ouais, il parce était... que moi, j'ai les chapeaux 3, c'est ma faute, n'était pas si haut.
Bon, les gars, vous êtes là pas pour refaire les chapeaux, mais pour.
Ah, c'était si drôle,
les bérets.
Mais pour évoquer, d'ailleurs, je précise que les prochains chapeaux, ce sera les défenseurs centraux. Hein. Ouais, donc, peut-être on invitera Jérôme Breton.
Est-ce qu'on fait aussi les coachs?
On a pas sur Internet, quand les gens réclament.
Oui, bah oui, ça peut se faire.
Ça serait bien, ça.
On verra.
Prenons
les matchs les uns après les autres. Alors. Fred, Julien, mais vous êtes complètement dingue ce soir, il faut que je garde le fil. Julien, explique-nous ce que veut faire la Première Ligue en reconfinant les joueurs après le confinement. Voilà, on veut tout savoir, puisque finalement, ils ont écouté la proposition de Lionel Charbonnier hier soir.
C'est ça, effectivement. Je pense qu'ils écoutent l'after. Plus sérieusement, il y a un mois déjà, ils avaient parlé de cette éventualité-là, de cette possibilité. À l'époque, c'était peut-être d'avoir toutes les équipes au même endroit, ou en tout cas dans la même région, confinées dans la même région, dans un hôtel par club, où donc ils resteraient là pendant 4, 5, 6 semaines. Un petit peu comme quand tu vas dans une Coupe du Monde et que tu as un camp de base et que tu reviens toujours à ton camp de base après les matchs. Voilà, c'était ça l'idée. Ils se sont ensuite, ils ont essayé d'autres idées, ils ont regardé un petit peu d'autres choses, et puis là visiblement il reviendrait vers cette idée là où une équipe, celle qui jouerait à domicile notamment, avait toujours le même hôtel à chacun de ses matchs à domicile, avec la moitié de l'hôtel privatisé, désinfecté à chaque fois, etc. Et l'équipe visiteuse, qui donc change à chaque fois, elle prendrait l'autre moitié de l'hôtel, mais à chaque fois tu resterais confiné dans ton hôtel avant les matchs, après les matchs, quand tu fais tes déplacements, etc. Et à chaque fois tu reviendrais, donc ça ferait 5 à 6 semaines loin de chez toi, comme dans un camp de base de Coupe du Monde, normal pour les équipes nationales.
Alors si je peux expliquer par rapport à ça, parce que le Real, on a l'impression qu'il est déjà ils sont en train d'anticiper ce qui pourrait se passer en Espagne avec une espèce de mise au vert permanente. Le Real Madrid a un centre d'entraînement où il y a un stade qui est le stade Di Stefano, qui est très bien d'ailleurs, qui est au niveau de la pelouse les mêmes dimensions qu'à Bernabéu. Il se trouve qu'en plus il y a des travaux à Bernabéu. Ben, c'est-à-dire que en gros et comme au centre d'entraînement il y a la résidence des joueurs, l'hôtel des joueurs, en fait ils ont demandé ou ils vont demander, mais de toute façon on sera accordé, que les matchs à huis clos joués à domicile se fassent à leur centre d'entraînement où ils ont un stade professionnel. Et donc en fait ouais, ils iraient même à pied.
Par exemple pour la télé c'est possible?
Ah ben bien sûr, parce que c'est les matchs qui sont diffusés à la télé. Bien sûr, c'est un stade, c'est un vrai stade, hein, le stade Di Stefano. Donc, il y a aucun problème pour que ça puisse être diffusé à la télé. Les matchs du Castilla sont diffusés sur la chaîne du Real Madrid. Il y aurait un peu plus de caméras que pour un match de troisième division, mais c'est totalement possible et les dimensions sont exactement de la pelouse les mêmes qu'à Bernabéu. Et ce qui en
donc,
fait
attends,
permet
la solution anglaise là, on en parle sérieusement en Espagne aussi alors.
C'est évoqué, mais en tout cas le Real Madrid déjà pour ses matchs à domicile. Ça évite d'aller à Bernabéu, de prendre un bus, etc. C'est parce que là, au centre d'entraînement, les mecs ils vont à pied au stade. Hein. C'est dans la même enceinte. Donc c'est quelque chose qui est
pareil.
Ouais. Aussi, ils ont leur stade de l'équipe B aussi.
C'est pareil. C'est ça, exactement. Et surtout, les joueurs peuvent dormir au centre d'entraînement.
Exactement.
Ils peuvent être confinés au centre d'entraînement et jouer leur match. Donc, ils traversent le parking et ils sont au stade qui fait 5000 places où jouent habituellement l'équipe féminine et l'équipe des jeunes. Le problème, et là, c'était le rêve de la première ligue, c'était un petit peu comme en Italie, Simone, où environ la moitié, enfin, pas tout à fait la moitié des clubs de Serie A, mais 8 sur 20, ont la capacité dans leur centre d'entraînement d'avoir les joueurs qui dormiraient pendant ces 5-6 semaines de confinement. En Angleterre, à part Manchester City, personne d'autre peut accueillir ses joueurs et son staff et tout ça pour que tout le monde reste au même endroit. C'est pour ça qu'il ferait ça dans un hôtel et pas au centre d'entraînement.
Voilà, attendez. Espagne, ouais, Angleterre, ok. En Italie, on pense à ça aussi, à faire de la mise au vert permanente?
Oui. Oui, on pense à ça. Après, la situation en Italie, on peut dire qu'elle change jour après jour. Hier, après les discours du Premier ministre, il y a eu l'intervention du ministre du Sport qui a un peu changé les choses en disant on n'est pas encore prêt à prendre vraiment en considération ça. Il a un peu rectifié les tirs ce soir pendant une directe Facebook parce qu'il a été très, très attaqué par un peu tous les médias italiens. On a parlé même des complots de la politique qui en veut au football et qui veut pas faire semblant de faire repartir le football quand il y a encore des centaines de morts, un peu comme si c'était une choix politique concernant une reprise et comme si c'était une chose pas nécessaire, c'était une activité économique qui n'est pas nécessaire en rapport aux autres qui sont plus importants. Quand je l'ai dit et je répète, le football en Italie, c'est une des premières 10 activités pour chiffre d'affaires, 5,2 milliards en 2018 et 1,2 milliards des impôts payés. L'idée, oui,
donc c'est à placer, au niveau de secteur d'activité qui font la même chose, quoi. Je veux dire, le tourisme, par exemple, je ne sais rien. Donc,
pas au niveau du tourisme qui est encore plus important. Et que malheureusement, c'est une des secteurs qui est plus touché et sur lequel les gouvernements, pour l'instant, n'ont pas utilisé un mot pour parler des reprises. Mais oui, c'est, comme j'ai dit, c'est une des premières des activités productives du pays. On parlait de mise à verte après une partie des tests pour bien sûr voir si les joueurs sont positifs ou pas et la situation physique. Après, on devait faire une mise au vert continuative jusque au jour de la reprise pour être sûr que pour la reprise du championnat, pour être sûr que les joueurs étaient tous négatifs. Il y a un souci, pas tous les clubs ont des structures comme ça. La Juve a son hôtel, Milanello, la maison du Milan peut accueillir tous les joueurs mais pas tous les staffs. Et l'idée c'était de mettre vraiment une cinquantaine de personnes par club, c'est-à-dire tous les kinés, les médecins, les attendants, tous ceux qui pouvaient être liés à la première équipe ensemble pour éviter que des facteurs extérieurs, des contagions en famille, des infectés puissent rentrer. Après, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu arrêté après le discours d'hier soir du Premier ministre qui n'a pas mis les 4 mai comme jour de reprise des entraînements, mais les 18. Et il y a une grosse hypocrisie sur ça, seulement pour terminer, parce qu'en théorie, les joueurs ne peuvent pas s'entraîner dans les centres sportifs du club, même pas toutes seules. Il n'y a aucun droit pour un sport collectif de s'entraîner dans un centre technique, mais, par exemple, les joueurs ont le droit d'aller courir dans un parc. Or, imaginez un joueur comme Cristiano Ronaldo qui va courir au parcours de Valentino à Turin. Qu'est-ce que peut représenter comme assemblement, espace, sécurité? Ouais. C'est un désastre. Mais il n'a pas le droit d'aller s'entraîner tout seul au centre technique de la Juve.
Alors, il y a un truc très intéressant que dit, qu'explique Simonet, c'est l'aspect politique. En fait, en Espagne, ça risque de se débloquer parce que le 2 mai, les adultes, chose qui n'était pas le cas jusqu'ici, les adultes auront le droit, enfin, au-delà de 14 ans, de faire une heure de sport dehors par jour. Mm-hmm. Ici, on n'avait pas le droit, hein, donc un rayon d'un kilomètre, une heure de sport, etc. Mais en fait, comme ici, on est dans un pays extrêmement touché, c'est le pays où il y a le plus de morts par million d'habitants, que le gouvernement est extrêmement attaqué.
C'est la Belgique le premier
Par million d'habitants, c'est ouais. Encore l'Espagne, mais c'est la Belgique en deuxième. Enfin bref, c'est
terrible. J'ai vu des chiffres différents, mais c'est pas grave, vas-y, continue.
Mais bref, de toute façon, la situation est terrible ici. C'est-à-dire que politiquement, et ce qu'expliquait très bien Simonet, dans l'autre sens, on a l'impression que le gouvernement italien veut se venger du foot. Ici, ce que ne veut surtout pas montrer le gouvernement, c'est qu'il privilégie le foot. Vous voyez qu'il n'y a pas de passe-droit. Et donc, le ministère de la Santé a pour l'instant n'a pas encore donné de réponse au protocole médical présenté par la Ligue, par Javier Tebas. Qui commence bien sûr par des tests. Je peux vous donner déjà en fait ce que ce pourrait être le protocole. Donc des tests, retour le 4 mai à des entraînements individualisés au centre d'entraînement, le 18 mai par groupe et le 1er juin entraînement collectif. Voilà, avec bien sûr des tests, etc. Nanana. Le ministère de la Santé devait donner son accord, mais il l'a repoussé pour des raisons purement de communication et de politique. Dans le sens, j'insiste, on veut pas avoir l'air de donner des passe-droits aux footballeurs alors que les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Vous voyez ? Donc, a priori, le gouvernement va profiter du fait que chacun, à partir du 2 mai, aura le droit de sortir une heure pour faire du sport pour que ça puisse lâcher un petit peu la liberté aux joueurs et revenir aux entraînements individuels.
Est-ce qu'en Allemagne, on parle aussi de ces mises au vert permanentes, Polo ?
Ben, je te rappelle qu'en Allemagne, on prépare la reprise du championnat déjà. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que ça se passe partout en Europe comme ça. Officiellement, la Bundesliga a fait un protocole en 31 points particuliers qui est très intéressant à lire. D'ailleurs, c'est vraiment détaillé tout ce qui se prépare. Les clubs s'entraînent déjà depuis une quinzaine de jours, ne l'oublions pas. Certains, d'ailleurs, ont outrepassé les recommandations puisqu'il y a des contacts. Et alors, on se rend compte qu'il y a un peu de juridique derrière. Officiellement, on n'a pas le droit de faire des contacts, mais finalement, dans certains lands, comme c'est un pays fédéral, on l'autorise. Donc, c'est un peu compliqué. N'oublions pas que la Ligue allemande est officiellement prête à recommencer la Bundesliga le 9 mai et que depuis 15 jours les clubs s'entraînent, les clubs professionnels s'entraînent. Par contre, il y a différentes personnes qui disent que le 9 mai c'est complètement ridicule et que ce sera plus poussé au 15 mai. Les polémiques sont plus liées en fait qu'on devrait jouer avec des masques et tout le monde dit que c'est pas possible, que ça va être très compliqué. Et l'autre paramètre, c'est ce qu'a expliqué très bien Fred, c'est que on est en train de se déplacer sur le terrain de la politique d'une façon sont extrêmement impressionnantes en Allemagne et on utilise des mots qui sont très importants dans la culture allemande, qui est celle du Sonderrolle. Le mot Sonder, c'est très important en Allemagne. C'est, vous savez, l'histoire de l'Allemagne est un petit peu compliquée si on se réfère au 19e et au 20e siècle, et c'est ce qu'on appelle en fait la voie particulière. Et en fait on est en train de se rendre compte que le monde professionnel du football, à force d'avoir voulu absolument aller chercher l'argent, bah ça se voit tellement que on se dit que le monde professionnel est différent des autres acteurs de la vie publique et notamment des citoyens, et on pense qu'il va y avoir des conséquences sur l'image de marque dégradée des clubs professionnels plutôt que de préférer la santé publique. Maintenant, c'est très compliqué parce qu'il y a du lobbying très important évidemment des clubs. On en a déjà parlé, mais je crois que ça se passe un peu partout en Europe, c'est de récupérer les droits télé des diffuseurs. C'est aussi la deuxième chose, c'est-à-dire que n'oublions pas que nous sommes dans un pays fédéral, donc les clubs sont très proches des politiques en local, et donc, comme par hasard, les présidents de région poussent pour la reprise du championnat, et on met une pression énorme sur les organismes de santé publique pour donner l'aval. Et le problème, c'est que, c'est un peu ce que disait Fred, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les professionnels ont, en gros, un choix qui est différent des autres citoyens, alors que des stades qui sont théoriquement ouverts au public continue d'être fermé pour la population, alors qu'on autorise les joueurs à aller courir dans tous les sens. Donc c'est en train de se déplacer sur la
politique. Politique. Ah
oui. Il y a beaucoup de populisme d'ailleurs derrière ça, en bien et en mal d'ailleurs à ce niveau-là. Je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, la Bundesliga est théoriquement
au au centre de ce genre de discussion-là. Finalement, on en parlait hier soir sans vous sur la culpabilité qu'on fait souvent peser sur le monde du foot, où immédiatement on en revient au vieux cliché du privilégié
qui gagne trop payé, bien sûr.
Moi, je pensais pas qu'à l'étranger ça arriverait autant. Enfin, je sais pas si c'est le même degré que chez nous, mais cette culpabilité sur le footeux, finalement, on s'aperçoit qu'elle existe un petit peu partout. Ouais, je sais pas enfin, si
On a aussi le droit de se dire que les présidents de club qui poussent en disant on est comme vous, etc., et qui ne cherchent officiellement que pour sauver financièrement les clubs, ce qui est à mon avis extrêmement exagéré en Allemagne, dans cette communication, oui, c'est juste possible, pour récupérer l'argent.
Polo, après,
ils sont pas plus moraux que les autres personnes.
Bien sûr que non, mais tous les secteurs d'activité essayent de sauver dans cette situation là qui est terrible. Ça va du bistrot du coin jusqu'à la très grande entreprise ou au club de foot. Tout le monde essaye de voir comment reprendre, comment limiter la casse économique. C'est un problème qui est commun à tout le monde, Polo. C'est pas simplement le club de foot. Après, que le club de foot puisse s'en remettre peut-être mieux qu'un autre, ça, t'as certainement raison là-dessus, effectivement, surtout quand ils sont adossés à des grands groupes, a priori, ils devraient supporter la crise mieux que le bistrot du coin.
Le problème de base qu'il y a ici, mais qu'il y a à peu près partout, peut-être un peu moins en Allemagne, c'est la question des tests. C'est-à-dire qu'en Espagne, il n'y a pas assez de tests.
Ouais, nous aussi, ouais.
Et donc, il y a certains clubs, notamment en deuxième division, qui ont dit, nous, on ne veut pas faire les tests offerts par la Liga, puisqu'il y a des médecins qui peuvent même pas être testés. Mais le problème, c'est que la Liga est une entité privée qui a acheté ses tests directement à un laboratoire et qui les remet au club. Moi, sur BFM TV, j'entendais il y a quelques jours le président de Veolia qui disait que la société avait acheté des tests auprès de laboratoires et que les employés de Veolia qui allaient revenir au travail allaient être testés. Donc en fait, il y a aussi une question.
Maintenant, on nous explique là que les entreprises privées ont parlé d'acheter des tests.
Ben il y a 4-5 jours, le président de Veolia était sur BFM TV, donc il en parlait. Donc ça a changé depuis. Mais voilà. Mais là, en Espagne, la priorité, c'est aussi de préserver l'image des footeux en disant ah ben non, on veut pas avoir l'air de prendre des tests qui sont pas pour les médecins. Voilà, en gros, c'est ce qu'il y a aussi. Et je voudrais évoquer un sujet qui me paraît très important, c'est la question juridique. En fait, l'un des freins au retour du football aujourd'hui, c'est que les médecins des clubs ont peur de ne pas être couverts. Imaginez un footballeur. Il est sous la responsabilité d'un médecin dans un club. Il chope le coronavirus, ça se passe mal, et il y a après, comme il est possible, une perte de pourcentage de capacité pulmonaire. Il peut plus faire son métier. Comment est couvert c'est-à-dire qu'un joueur pourrait se retourner contre le médecin du club. Et donc aujourd'hui, les médecins espagnols s'inquiètent d'un vide juridique. Ils veulent savoir quelle serait leur responsabilité si jamais un joueur se retournait contre eux. Vous voyez, c'est pas rien ça, hein, et ça pourrait être un frein à la reprise.
Dans quelques instants, on continue le débat. Évidemment, Jérôme, Pierre et Daniel donneront leur avis un peu général sur tout ça. Avec vous, les drôles de dames, on se retrouve dans quelques petites secondes dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Les grands hommes sont là, plus Jérôme Rotten, Pierre Ducrot, Daniel Riello, bien sûr. On continue le débat. Alors, du coup, Jérôme, toi, au début d'after, tu disais c'est stylé, là, tu t'adhères pas. Et puis là, t'as vu, ça prend forme en Espagne, en Angleterre.
Mais alors, donc c'est parce que ça prend forme que je dois dire que c'est bien.
Ah non, non, non.
En fait, tous ces gens-là.
Il n'y a pas forcément d'autre solution, quoi. C'est ça le problème.
Bah oui, mais bon, après, Fred,
pour Jérôme, la solution, je t'assure, c'est de plus jouer pendant 2 ans. Hein.
D'accord, mais toi Daniel, on va te demander de faire des émissions et d'être enfermé. Toi déjà que tu pars deux jours en déplacement, t'en peux plus. Donc arrête de me donner des leçons, s'il te plaît. Arrête de nous donner des leçons.
Arrête de faire ta majorette.
Non, mais c'est toi, parce que toi c'est facile de faire ton discours de populiste là.
Tu vois, de genre. Tu sais même pas ce que tu dis. Toi, ce que tu fais depuis le début, c'est t'enfoncer dans ton canapé
déjà.
Et flipper. Comment tu veux que je te laisse parler? Tu m'accuses et moi, je ne laisse pas répondre.
C'est toi qui m'attaques déjà d'entrée. Ah bon, Donc avant que je dise quelque chose, parce que en effet sur l'Angleterre, sur l'Espagne et tous les autres pays, pas en Allemagne comme dit Polo, mais ils réfléchissent à ça, à mettre les joueurs les confiner dans un hôtel et attendez, on sort de 2 mois de confinement et les joueurs, excuse-moi, même si le football est important, les joueurs ils sont aussi en confinement, ils en peuvent plus, c'est compliqué, ok. Donc tu vas les prendre et tu vas les mettre confinés entre eux, hein, pendant 6 semaines, et tu vas leur dire vous allez vous préparer, vous allez faire un match. Alors Julien me dit c'est comme une grande compétition. Non, ça n'a rien à voir. Déjà quand c'est une grande compétition, l'équipe ça dure un mois, et quand ça dure un mois il y a que 4 équipes qui vont jusqu'au bout, hein. Les autres elles sont sorties avant, et c'est entrecoupé de plages de repos où tu peux voir des amis, tu peux voir des gens de l'extérieur, hein. T'es pas confiné entre les équipes et entre les sélections. Là ça sera complètement différent.
Attendons de voir la réaction des footeurs, ce qu'ils en disent, tu vois.
Mais je suis désolé, mais le footeux, au bout d'un moment, ça reste un père de famille pour la plupart. Hein, ils ont des familles. Hein, dans ce contexte-là, être coupé de ta famille, de tes proches, de tes enfants et tout ce qui l'en suit. Je suis désolé. Psychologiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bah, et après, tu vas leur demander.
Pour tout le monde.
Mais tu, ouais. Eh ben oui, c'est compliqué,
bah compliqué pour tout le monde.
En fait, pourquoi au footeur tu vas leur demander d'être coupé du monde pendant 6 semaines et pas aux autres?
Parce qu'il
est bien payé, donc il doit fermer sa gueule. Mais qu'est-ce que tu me racontes?
Non, mais ça va pas. Il peut bouger un peu son cul.
Donc, oui, vu qu'il est bien payé, il ferme sa gueule. Eh ben, je suis désolé. Ben non, tu dois pas voir la vie comme ça. Moi, je la vois pas comme ça.
Non, mais en fait, Jérôme, c'est dingue qu'un footeur comme toi, ne réfléchisse pas à deux choses. La survie de l'industrie footballistique. Et moi, je parle pas des joueurs.
Dans son canapé,
tous les gens autour qui vivent. Quand je te dis que dans des clubs en espagnol, même le PSG, c'est 500 employés. Il y a quoi? Il y a 25 footballeurs. Mais le reste, qu'est-ce que tu fais des autres? Attends, je termine là-dessus. Et l'autre aussi, c'est qu'il faut penser, et j'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un d'un staff de club ces jours-ci, mais il faut, pour les footballeurs, s'il n'y a pas de foot avant le mois de septembre-octobre, mais les conséquences physiques peuvent être catastrophiques.
Absolument.
Jamais dans leur vie professionnelle,
absolument,
les joueurs du foot
6 mois sans jouer.
N'auraient été 6 mois à la maison.
Mais est-ce que j'ai dit
Fred,
qu'il fallait arrêter de jouer?
Je vais même te dire ce qu'on m'a dit.
J'ai dit que c'était pas la solution de les confiner pendant 6 semaines. Non. C'est tout, c'est mon avis.
Oui, mais il faut trouver. Mais si c'est la seule solution pour qu'ils reprennent le travail. Moi, quelqu'un.
Mais comment c'est la seule solution? Comment la seule solution? Tu veux que je te dise ce que c'est la seule solution? C'est de pouvoir les tester un maximum. Quand ils viennent aux entraînements et quand ils vont faire les matchs, c'est pas de les tester qu'une fois ou deux fois dans la semaine, c'est même plus que ça. Après, oui, bien sûr, que
si
c'est
tu peux pas,
peut-être.
Tu fais rien.
Eh ben, il faut trouver une solution. Mais la solution, je pense pas que ça soit de confiner, parce que on vous l'a dit, hein, plusieurs fois. Alors après, je sais pas. Moi, je veux pas parler pour tous les autres joueurs, mais il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Le sportif de haut niveau, quel qu'il soit, c'est aussi psychologiquement, il faut qu'il soit assez bien quand même. Je te dis assez bien. Il pourra pas être parfait dans la situation actuelle, mais assez bien. Et si tu vas le couper du monde, de sa famille, c'est un lien très très important de ses enfants. Je suis désolé. Je pense que le mec, tu vas le mettre au fond, et même si l'économie du foot est très importante. Alors, on est d'accord, mais il y a d'autres moyens.
J'aimerais que Pierre, tu donnes ton point de vue à toi, s'il te plaît.
Alors moi, je suis beaucoup plus partagé que ce que je pouvais l'être, où j'étais exactement dans du même avis que Jérôme la dernière fois, quand on parlait de peu importe quasiment les risques, le footballeur devait aller jouer, aller faire ses matchs et rentrer chez lui et peut-être contaminer sa famille, ses enfants, etc. Je rejoins Jérôme sur le fait que ça va être sûrement très très dur psychologiquement de rester enfermé 6-7 semaines dans un hôtel confiné, mais à la limite, je pourrais déjà, moi, si je me mets à la place du footballeur, je pourrais plus le concevoir que de rentrer chez moi tous les soirs avec ce risque-là que je ferais porter à des gens autour de moi. Donc déjà, là-dessus, à la limite, c'est pas une bonne solution, je rejoins Jérôme, mais c'est pas très français, mais c'est moins pire que celle où on devrait, les joueurs devraient rentrer chez eux tous les soirs. C'est peut-être un début de solution. Et encore, pour moi, la solution, elle n'est pas là, messieurs.
Bah, de toute façon, on en est à chercher la solution la moins pire, parce qu'il n'y a pas de solution idéale, on l'a bien compris.
Ouais, je sais bien, mais dans le moins pire aussi, il y a peut-être une autre solution, mais elle dérange tout le monde, et notamment ceux qui argumentent. Fred, quand je t'entends dire, il y a 600 ou 700, et même s'il y en avait 800, à la limite, peu importe, puisque aujourd'hui, le PSG, pour avoir eu un de ses salariés il y a deux jours, je crois qu'il m'a dit, c'est 890.
800 PSG,
je crois. Ouais, 890.
Ils vont pas perdre leur emploi, ces gens-là, à un moment. Il faut sauver les emplois de ces gens-là aussi.
Ah, d'accord.
Je vais te dire.
Donc, t'envoies les futurs charbons. Je vais te dire, Pierre, s'il vous plaît.
À un moment donné, pour moi, cet argument, il n'est pas valable. C'est pas de mettre en danger la vie, même d'une seule personne, pour sauver l'emploi de 800. On parle d'une vie d'un côté et d'un emploi de l'autre. Le football, si c'est une industrie aussi riche que ça.
Quelle vie tu mets en danger?
Mais parce que tu peux en mettre en danger, Daniel. Alors, je te rejoins sur une chose.
C'est plus dangereux de prendre sa voiture pour aller au centre d'entraînement.
Dans 2 minutes, je te laisse la parole. Dans 2 minutes, je te laisse la parole. On ne peut pas imaginer, puisqu'il y a des droits télé, moi je parle pour la France, hein, pour ce que je connais, il y a des droits télé qui vont être bien supérieurs à ce qui se pratiquait l'année passée, l'année prochaine. Il y a une hausse, en gros, pour chaque club, ça va monter. On ne peut pas imaginer, parce qu'aujourd'hui on demande notamment aux joueurs d'être solidaires, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et même de National se mettent autour d'une table, statuent la fin de la saison, puisque c'est trop risqué dans un contexte où on le rappelle peut-être que dans 2 mois, le gros de l'épidémie sera quand même un peu plus passé. On sera plus dans l'œil du cyclone. On arrivera peut-être un peu plus à gérer des choses, à éviter une vague de retour aussi qu'on va se prendre dans la gueule là, dans peut-être 3 semaines après le déconfinement, puisque ça s'est passé à peu près comme ça partout. Je vois pas pourquoi chez nous ça se passerait différemment. Et on pourrait pas imaginer une avance sur les droits télé pour minimiser l'impact sur tous les clubs, s'organiser par solidarité un peu plus absorbable, trouver une solution pour ceux qui restent.
Déjà, c'est pas une avance. Et définir une date. C'est ce que les diffuseurs doivent. Déjà.
Voilà, déjà. Et définir une date positive.
Le consommateur demande le remboursement de son abonnement puisqu'il voit pas de.
J'en ai rien à foutre, Daniel, du consommateur. Le consommateur.
Ah, je suis désolé.
Excuse-moi. À un moment donné, si tu
demandes. Moi, je suis désolé. Moi, je suis diffuseur. Si j'ai pas mon produit, moi, je paye pas.
Moi aussi, je suis consommateur. Moi aussi, je paye des abonnements. Et ben, c'est pas grave. Tu sais quoi, pendant 4 mois, mon abonnement, il aura servi à rien.
Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de payer pour quelque chose qu'ils ne voient pas à la télé.
Donc, on envoie des joueurs de foot jouer tout de suite pour que les gens puissent
voir ces gens-là.
Non, C'est de ne plus rester dans le flou où on est aujourd'hui. C'est ce qui paralyse tout le monde. Et ben une solution concrète, c'est de dire stop à tous les championnats et tu reprends dans une date qui te paraît un peu plus accessible, peut-être mi-août, peut-être fin août, début septembre, tu redémarres le prochain dans le championnat. Alors, et tout le monde bascule là-dessus. Et avec une redistribution des droits télé. Et ben les emplois des 800 employés du PSG ou d'ailleurs, surtout ceux du PSG, je me fais un peu moins de soucis avec eux parce que j'ai l'impression que leur patron, il pourrait être aussi solidaire et assumer ça. Mais dans les plus petits clubs où c'est beaucoup plus dur à assumer. Moi, j'ai l'impression qu'avec une solidarité et une redistribution des droits télé qui vont arriver, ce serait tout à fait gérable.
On conclut, Daniel, tu peux rajouter ce que tu veux dire. Il nous reste 1 minute 30.
Non, franchement, je laisse parler Fred. Moi, j'ai plus rien à dire.
Je comprends l'idée du risque.
Non, c'est pas lamentable. C'est pas ce que tu penses, mais c'est pas lamentable.
Alors, Fred, si
vous voulez. C'est pour ça que je ne veux pas répondre.
Donc, on ne répond pas. Donc, c'est à Fred de parler.
Bien entendu qu'il faut des mesures sanitaires extrêmement précises. Ça, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Mais simplement, la probabilité qu'un joueur de foot, dans une santé formidable, qui a 25 ans,
mauvais argument, Fred.
Laisse-moi terminer.
Tu peux rien leur dire, ça fait 2 semaines que j'essaye de parler avec
eux. Laisse-moi terminer la phrase.
Il ne t'écoutera pas, toi.
La probabilité qu'un joueur de foot se contamine et finisse avec des problèmes pulmonaires, elle est infime.
Elle est faible.
Elle est très faible. On est d'accord là-dessus. Il y a peut-être plus de risques d'avoir un accident de voiture en allant au centre d'entraînement que d'être. Un moment, il faut être responsable.
Et au boulot en vélo maintenant.
Il faudrait peut-être que les footballeurs soient aussi responsables. Ils sont responsables de leur secteur d'activité.
Allez,
de leur secteur d'activité.
On n'est pas obligé de finir sur un accord, rien à voir avec l'argent,
puisqu'ils vont s'asseoir peut-être sur leur salaire s'ils ne
signent pas.
En essayant de le gratter par derrière.
On va passer à la tactique. Merci les drôles de dames. Merci à vous.
Merci les amis.
Mon cher Didier, les questions que vous avez posées sont évoquées en Allemagne d'une façon extrêmement sérieuse et on s'écoute les uns les autres. Et c'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Mais j'aurais bien aimé m'exprimer sur ce sujet-là parce que c'est quand même, je sais pas, beaucoup plus intéressant en tout cas.
Moi aussi.
Beaucoup moins cacophonique au niveau de donc c'est bizarre, donc voilà, c'est bon.
Bah pourquoi tu les laisses pas parler,
alors,
Gilbert?
Dans ces cas-là.
Non, mais c'est pas grave. Allez, ciao.
Non, vous restez deux minutes et vous allez tous pouvoir vous exprimer.
C'est des sujets extrêmement complexes. C'est des sujets philosophiques. Je pense que vous avez vu l'express qu'a sorti.
Mais donne ton avis.
Non, mais c'est pas un avis. Moi, j'ai pas l'avis, tu vois. C'est comme
les gars, bougez pas. On fait une pause. Derrière, Simonet qui n'a pas pu parler le fera, Julien et Polo. Et ensuite, on passera à notre débat tactique. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot.